Combien de fois n'entendons-nous pas des expressions du style « les journées n'ont que 24 heures ». Vous avez remarqué qu'il y en a donc 24 heures, j'espère. « Ou il faut laisser le temps au temps ». Ou encore « avec le temps », ça c'est une grosse connerie, ça. « Avec le temps, on guérit de tout ». Toutes ces expressions nous ramènent à la réalité de ce que nous sommes, des êtres essentiellement liés au temps. Le temps, c'est notre plaine de jeu, notre cour de récréation, le cadre, en fait, le seul cadre où nous pouvons véritablement nous exprimer. C'est grâce à ce que vous faites de votre temps que je peux savoir ce que vous aimez, qui vous aimez, à quoi vous passez votre temps ou à quoi vous le perdez, en dépit de ce que vous pouvez en dire vous-même. Tant il est vrai que le verbe « aimer » s'écrit en fait « T-E-M-P-S ». Temps. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez quelqu'un si vous ne lui donnez pas de votre temps, si vous ne prenez pas du temps avec cette personne. Moïse, ça ne remonte pas à hier, Moïse avait bien compris cela lorsqu'il fait cette prière, lorsqu'il adresse cette prière à Dieu dans le psaume 90. La durée de notre vie s'élève à 70 ans et pour les plus robustes à 80, mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère car le temps passe vite et nous nous envolons. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Comment utilisons-nous notre temps? Qu'est-ce qui l'occupe? Et plus important encore, de quelle manière est-ce que nous abordons le temps? Qu'en faisons-nous et à quel rythme? Alors, en réfléchissant à cette question du temps, nous nous apercevrons que celui-ci constitue aussi, ce qu'on a appelé depuis plusieurs semaines maintenant, une discipline spirituel, quelque chose dont Dieu veut se servir pour nous faire grandir en lui. Il n'y a pas que la prière et la lecture de la Bible qui sont supposées nous faire grandir, on y reviendra les semaines suivantes, mais aussi tout ce qu'il nous offre à vivre, les bons moments, les moments les plus difficiles, et ce temps qui est mis à notre disposition donc pour grandir avec lui, dans notre communication avec lui. Dallas Willard, que j'ai déjà cité plusieurs fois, le grand penseur chrétien, a dit un jour à l'un de ses fils spirituels qui lui demandait au téléphone « mais je dois partir pour un voyage de 6 mois, d'un voyage d'enseignement pendant 6 mois aux États-Unis, et j'ai peur un peu de me perdre dans mon intimité avec Dieu. Quel conseil me donnerais-tu pour que justement je puisse conserver cette intimité, et surtout pour que je puisse grandir dans ma relation à Dieu ?» Alors, le gars en question, qui est pasteur aujourd'hui, a entendu au téléphone un grand silence, et finalement, voilà ce que Dallas Willard lui a dit, « Tu dois impitoyablement éliminer toute hâte de ta vie. Tu dois arrêter de courir. Absolument. Tu dois apprendre à rester, si vous préférez. » Et là, le gars explique qu'il a pris note sur un petit carnet au téléphone de cette remarque de Willard et il a attendu autre chose. Il partait 6 mois quand même. Il dit « Je ne vais pas me fermer 6 mois avec cette simple phrase, ce simple conseil. » Et après un autre temps de silence, Willard a rajouté « C'est tout, hein. Il n'y a rien d'autre. » Alors, à présent, imaginez une seconde que Dallas Willard ait raison, que le temps, c'est tout ce qui compte. Ça voudrait dire que notre vie en dépend, que de nos jours, le grand ennemi de nos âmes, c'est que nous courons dans tous les sens, et que cela peut même aller jusqu'à, dans certains cas, détruire nos âmes sans qu'on en soit spécialement au courant. Carl Jung, l'un des pères de la psychanalyse, un ancien copain de Freud, vers la fin de leur vie, ils ont commencé à s'engueuler un peu, mais a dit ceci, « La hâte ne vient pas du diable, elle est le diable. » Jung n'était pas chrétien, je précise pour ceux qui ne sauraient pas. « La hâte ne vient pas du diable, elle est le diable. » Nous devrons donc encore et toujours nous battre contre cet ennemi, car les conséquences de ce combat peuvent être absolument énormes. En effet, le plus grand danger pour la grande majorité d'entre nous, ce n'est pas de perdre notre foi en Dieu. Ça, je pense qu'une fois qu'elle est installée, que le Christ a fait son œuvre, cette foi est là, bien entendu. Ce n'est pas ça le danger. Le danger, c'est que nous devenions si distraits, si pressés, si préoccupés, que nous options sans le savoir pour une version médiocre de notre foi en Dieu. Si vous discutez avec la grande majorité des chrétiens aujourd'hui et que vous parvenez à ce qu'on soit honnête pendant 5 minutes, la plupart honnêtement vont vous dire « ma vie chrétienne, elle ressemble à rien ». Et une des raisons pour cela, c'est parce que la seule chose que nous ayons à disposition pour grandir avec Dieu, c'est le temps. Et une simple remise en question de nos journées peut déjà nous aider à voir quelles sont nos véritables priorités. Si nous ne sommes pas conscients de ça, nous allons simplement nous contenter, si vous voulez, de survoler notre vie, et certainement pas de la vivre. Donc la grande illusion distillée aujourd'hui au travers de nos sociétés hyper connectées et des médias en tout genre, c'est que nous presser va nous permettre de gagner du temps. C'est le message qu'on distille en permanence. Il y a quelques années, en allant faire le plein dans une station-service, je suis tombé sur une publicité qui disait « Nous vous aidons à vous déplacer plus vite ». Certains d'entre vous se rappellent peut-être de cette pub. Oui, mais imaginons un instant que je n'ai pas envie d'aller plus vite, que ça ne m'intéresse pas d'aller plus vite. Et si au contraire, j'ai envie de faire l'éloge de la lenteur, moi. Qu'est-ce que je fais de cette pub si mon besoin fondamental, mon véritable besoin, ce que Dieu me demande, ce n'est pas d'aller plus vite, mais d'apprendre à prendre le temps. Dans les années 60, le magazine américain Time a publié une enquête portant sur les implications des nouvelles technologies sur le temps de travail. À l'époque, déjà dans les années 60, il y avait une sorte de boom quant à la mécanisation des entreprises. Et des sociologues, des intellectuels et des responsables de management ont commencé à analyser les conséquences possibles sur les générations qui suivaient. Qu'est-ce que ça va donner, cette avancée technologique flamboyante des années 60? Eh bien, ils avaient dit à l'époque, ils avaient fait un rapport très très sérieux là-dessus, que dans les 30-40 prochaines années, donc on y est, la seule question que l'homme devrait se poser, c'est de qu'est-ce que je vais faire de mon temps libre? Ils se sont dit ça se développe tellement bien et c'est au bénéfice de l'homme que finalement on va pouvoir partager le temps de travail. Il n'y aura plus de travail pour tout le monde. Donc certains vont travailler un jour par semaine et puis le reste du temps, on va les payer un rien. Je vous assure que c'était dans le rapport. Qu'est-ce que l'homme moderne du 21e siècle pourra faire de son temps libre grâce à la mécanisation de la société et des entreprises? Mes amis, nous sommes une de ces générations. Vous trouvez que ça correspond à ce qui était annoncé, vous? Honnêtement. Et ce n'est pas des qui avaient réfléchi à ça. C'était le chemin tracé, ça va nous amener à ça. Moi, je ne pense pas que ça nous ait amené à ça. Donc, 50 ans plus tard, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est très loin du compte. La vérité, c'est que le développement technologique a mené à une dégradation des conditions de travail, à un appauvrissement de l'humain dans l'entreprise, à une accélération des cadences de travail et à une paupérisation du personnel salarié. Les gens sont de plus en plus mal payés. Je ne suis pas socialiste. Vous n'êtes pas on n'est pas dans une succursale du Parti Socialiste, rassurez-vous. Savez-vous, par exemple, à combien de temps de pause les salariés de Renault, le constructeur automobile, ont droit? Ceux qui travaillent sur les chaînes de montage. Vous savez à combien de temps de pause ils ont droit? 14 minutes. Là-dedans, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils boivent et il faut qu'ils fassent leurs besoins naturels. 14 minutes. L'avancée technologique. D'une manière peut-être un peu plus légère, indépendamment du fait que vous avez compris qu'on est bien conditionné. Nous faisons tout notre possible pour perdre le moins de temps possible. Alors j'ai une question pour vous. Vous savez pourquoi on a inventé le shampoing 2 en 1? Pour vous faire croire que vous allez gagner du temps. Parce que c'est insupportable. Vous mettez le shampoing, vous rincez le shampoing. Parce que moi j'ai une grande chevelure abondante, moi ça prend du temps. Tu parles. Donc vous rincez le shampoing. Et puis après, vous faites quoi? Vous devez mettre l'après-shampoing, le faire pénétrer, le faire reposer, rincer l'après-shampoing. La perte de temps! Calculez, pour ceux qui n'ont pas ce genre de shampoing, quel temps vous gagnez et qu'est-ce que vous en faites du temps gagné. Mais on part avec. On est parti avec. Maintenant, si vous employez un shampoing 2 en 1, ce n'est pas grave, vous n'allez pas mourir pour ça. C'est bien clair. Nous avons la chance d'avoir depuis peu, quoi, peut-être un mois ou deux, à Braine-l'Alleud, une antenne de pizzas Domino. Domino's Pizzas. Ouais, super. Vous savez peut-être pas, par contre, que c'est eux qui ont inventé le concept de livraison rapide, en déant la demi-heure. C'est eux qui ont inventé ça. Et peu importe le danger encouru par les livreurs pour tenir cet engagement, et ce pour un salaire de misère, ça on s'en fout, on se contente de commander des pizzas. Le PDG de Domino Pizza a d'ailleurs déclaré « Nous ne vendons pas des pizzas, nous vendons de la livraison express. » Allez plus vite. Et Domino's Pizza a fait des émules. Ils ont influencé d'autres personnes. Et dans des secteurs d'activité, honnêtement, moi je ne risquais pas de m'en douter. Par exemple, un grand hôpital de Chicago, en se basant sur le même concept, a garanti à ses patients du service des urgences qu'ils seraient pris en charge en déant les 20 minutes ou la consultation serait gratuite. Résultat, vous savez quoi? Les rentrées financières de cet hôpital ont grimpé de 30%. Qui est-ce qui est content? Les actionnaires. Les patients, ils sont traités à la chaîne. C'est une catastrophe. Et le personnel de cet hôpital est sur les genoux. Il est exsangue. Et il fait mal son travail. Mais il faut aller plus vite. Et puis aussi cette enseigne bien connue dont le logo est une arche dorée. Ça ressemble à une frite géante. Vous connaissez? Et que beaucoup adorent, que dis-je adore, vénèrent, ils ne jurent que par ça. Leur tour de taille aussi, hein, enfin soit. Et qui a fait sa réputation, non pas sur la vente de bonne nourriture, hein, good food, de nourriture bon marché, cheap food, mais bien de nourriture rapide, fast food. Ça marche. Ça marche. C'est fou, hein, ça marche. Il faut quand même savoir qu'après avoir lancé ça, ils ont quand même réfléchi. Ils se sont dit, les gens doivent quand même parquer leur voiture sur le parking du McDonald's. Ils doivent sortir de leur voiture. Ils doivent entrer dans le restaurant, aller au comptoir, passer leur commande, prendre leur plateau, s'asseoir, manger, reporter leur plateau, pour les plus civilisés d'entre eux, la plupart, les non-civilisés laissent à table, et remonter dans leur voiture. Autrement dit, ces gens perdent du temps. Qu'est-ce qu'on a fait? On a inventé le drive-through. Vous restez dans votre voiture. Et vous mangez dans votre voiture. Et tout le monde trouve ça génial. Les odeurs de frites, c'est pour votre voiture. Dans ma voiture, jamais une frite, hein, les enfants. Jamais. Question de principe. Je suis un homme de principe. C'est ça le progrès. Le seul problème, c'est que Jésus, il a l'air de dire exactement l'inverse. On est embêté là. Un petit peu, je pense. Donc nous évoluons dans le monde de la reine rouge d'Alice au pays des merveilles. La reine rouge, la reine de cœur. Je fais plutôt référence au livre de Lewis Carroll plutôt qu'à l'adaptation de notre ami, même si c'est une image de son film que je prends. Voilà ce que dit la reine rouge à Alice à un moment dans le livre. Ici, c'est très simple. Donc, dans mon royaume, dit-elle, c'est très simple. Pour rester à un endroit, tu dois courir le plus vite possible. Autrement, si vous ne courez pas, vous ne pouvez pas rester en son royaume. Et si tu veux te rendre ailleurs, parce qu'à un moment, on a envie de se tirer de ce royaume, eh bien, tu dois courir deux fois plus vite. On est dans ce genre d'environnement-là aujourd'hui, mes amis. Pourquoi croyez-vous que la fin de l'histoire dans Alice, il court en permanence partout avec un réveil à la main et en disant tout le temps « je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard ». Ce livre date de la fin du 19e. C'est quoi la fin du 19e en Angleterre? C'est l'industrialisation. C'est la révolution industrielle. On annonce aussi le succès. Voyez, on va aller plus vite, on va produire plus, et ça va amener de la qualité de vie à tout le monde, même aux ouvriers, qui à l'époque étaient dans des conditions absolument, on ne peut même pas s'imaginer. Ça a fonctionné, vous croyez, l'industrialisation? Au bout du compte, moi j'en suis pas sûr. Ce livre est donc une critique de cette société-là aussi. Pour l'anecdote, Lewis Carroll, c'est un nom d'emprunt. L'auteur de ce livre, d'Alice au pays des merveilles, était pasteur, mes amis. C'était un pasteur. Et c'était une critique de la magnifique société victorienne de la fin du 19e en Angleterre, qui était montrée en exemple partout en Europe. Certains ont même parfois fait de l'emploi intensif du temps qui passe des slogans ou un slogan de campagne électorale. Je pense à un certain Sarkozy qui disait travaillez plus. Moi, si vous m'élisez président, vous allez travailler plus, mais pour gagner plus. Et ça a marché, mes amis. Autrement, tu vas faire des heures sup. Ah ben, tu vas être forcément payé plus. Alors, il dit, on va les détaxer. On attend toujours, mais soit. Travailler plus pour gagner plus. Comme si la vie humaine pouvait se résumer à une quantité ou une dimension purement quantitative des choses. Je suis du pognon, uniquement du pognon. Et je dois produire de la richesse pour moi et pour ma famille. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler. Hein. Certains avant le cul m'ont dit que j'étais un bourreau de travail, c'est ça? Je me rappelle bien. Mais bon, l'avantage des pasteurs, c'est qu'ils travaillent beaucoup, mais il ne faut vraiment pas faire ça pour gagner des thunes. Les enfants, ça, il faut oublier. Et en réfléchissant à ça, à se travailler plus pour gagner plus, je me suis imaginé une petite histoire que je vais vous lire maintenant. Cette histoire, elle est totalement inventée, hein. Mais je pense quand même qu'elle retranscrit réellement ce que vivent beaucoup de couples aujourd'hui. La vaisselle sale déborde de l'évier, les verres en équilibre fragiles sur une vieille casserole au fond noir de graisse. Une mouche bourdonne paresseusement au-dessus des restes de nouilles. L'odeur de viande grillée flotte encore dans l'air. Elle danse seule. Il fait froid dans la cuisine maintenant que les plaques sont éteintes et la chair de poule couvre ses bras nus. Elle entend le tiroir de la commode se refermer dans la chambre à coucher. C'est Nina Simone qui chante. Elle l'a découverte il n'y a pas très longtemps grâce à un roman et depuis elle l'écoute en boucle. Son niveau d'anglais n'est pas assez bon pour qu'elle en comprenne vraiment les paroles, mais ça ne la dérange pas. Le robinet se met à couler dans la salle de bain. Elle danse seule. Ses mouvements sont lents, un peu désordonnés. Elle a du mal, vraiment du mal à suivre le rythme. Elle bouge les pieds, ondule vaguement les hanches, le visage levé vers l'ampoule nue, accrochée au plafond. Sur le plan de travail, traînent encore des épluchures de courgettes et d'oignons. Le couteau les maintient sagement sur la planche à découper. Elle adore Nina Simone, bien plus que Billie Holiday. Sa voix sur « Ne me quitte pas » de Jacques Brel lui donne envie de pleurer à chaque fois. La chasse d'eau est tirée, le robinet s'ouvre à nouveau dans la salle de bain. Elle danse seule, les yeux obstinément fixés sur l'ampoule qui lui brûle la rétine. Elle ne veut pas s'abaisser à regarder l'encadrement de la porte ou à dresser l'oreille au moindre bruit qu'il fait dans l'appartement. Même si elle ne peut pas s'empêcher, bien sûr, son corps est plus faible que son esprit. Ou l'inverse, c'est un sujet à méditer. Le plancher grince, il est retourné dans la chambre. La musique douce, mélancolique, textuellement incompréhensible, s'élève dans tout l'appartement. Il ne peut pas ne pas l'entendre, cette musique. Un peu de lait de coco a coulé sur la poubelle, deux traînées blanches sur le plastique gris. L'odeur qui s'en élève est douceâtre, écœurante. Elle se mélange mal avec celle de la viande. Il va falloir jeter le sac, bientôt. La chanson touche à sa fin, ne veut pas briser l'instant en la remettant. Ce sera un message trop direct. Elle ne veut pas qu'il pense. Il est rentré tard encore, un nouveau projet, ou même plusieurs. Elle ne sait plus trop. Des réunions, des business plans, des objectifs, ça ne l'intéresse pas. Mais le fait est que maintenant, il rentre tard tous les soirs. Il mange en silence devant le programme télé qu'elle a choisi pour l'attendre. Mon Dieu, cette voix! Elle secoue la tête. Ce qu'un être humain doit souffrir pour finir par acquérir une voix comme celle-là. Si expressive, elle ne connaît pas trop la vie de Nina Simone. Drogue, relation abusive, comme Billie Holiday peut-être. Ou juste le fait d'être une femme noire aux États-Unis à un moment où aucun de ces deux états n'était particulièrement enviable. Elle ne sait pas, au juste. Elle continue de tourner lentement sur place, ses bras serrés autour d'elle. Elle a fermé les yeux. Elle ne veut plus voir maintenant. Le lit grince. Il est couché. Il rentre de plus en plus tard et part de plus en plus tôt. Des clients étrangers, des conférences, des décalages horaires. Certains jours, ils ne se disent plus que bonsoir et bonne nuit. Elle a essayé de poser des questions, de faire semblant de s'intéresser, mais il ne veut pas répondre. Il est là, fatigué de sa journée, alors il mange en silence, une bouchée après l'autre. Ce soir, après avoir rangé les restes au frigo, en contemplant les quelques magnets à moitié décollés maintenant, qui tiennent sur le frigo quelques cartes postales, et le faire-part de naissance de sa nièce, elle avait pensé que peut-être, elle s'était dit, la musique remplirait tout l'appartement, qu'il l'aime bien aussi cette musique, enfin elle pense qu'il l'aime. Peut-être qu'il l'aurait prise dans ses bras. Ils auraient entamé un pas de deux, un pas de danse. Mais elle a honte d'y repenser. De s'avouer que ça n'arrivera probablement jamais. Elle sait que la lumière dans la chambre est à présent éteinte. Elle n'en peut plus. Elle n'en a plus que pour quelques secondes de musique. Alors, elle continue de danser. Seule. Travailler plus pour gagner plus, et surtout, mes amis, pour vivre moins. Le plus ironique dans tout ça, c'est que tous nos efforts pour rentabiliser notre temps n'ont jamais produit ce derrière quoi nous courons sans doute sans le savoir, la plénitude de l'instant présent, vivre véritablement l'instant présent, profiter pleinement du temps, de notre temps qui passe. Ce sentiment produit par le fait que nous pouvons prendre le temps. En fait, nous vivons l'opposé. Et de nombreux sociologues font remarquer qu'alors que nos sociétés produisent beaucoup de biens matériels en tout genre, et de plus en plus de services devant nous faciliter la vie, ces sociétés sont extrêmement pauvres en temps, en échange, en approfondissement, en communication véritable. J'ai déjà dit, mais moi, quand parfois je vais au restaurant, ça me frappe. Il y a parfois des couples qui sont à table tous les deux. Ils s'installent, ils prennent chacun leur iPhone et ils commencent à pignoter dessus. Alors, de temps en temps, il y a le serveur qui ose interrompre quand même. Vous allez manger quoi ? Ils sont quand même un peu là pour ça. Ils prennent le temps de dire quand même ce qu'ils vont manger, le vin qu'ils vont boire, et dès que le serveur est parti, on repart. Mais nous sommes dans une société connectée, hein, mes amis. À connecter à quoi ? Je ne sais pas. Mais connectée à qui ? J'ai une idée. À rien, ni à personne. La hâte produit dans nos vies ce contre quoi Jésus nous met en garde. Ce qui est tombé parmi les ronces, c'est la parabole du semeur, vous connaissez hein, sans doute, et des différents terrains qui reçoivent la parole. Ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole. Mais en cours de route, ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne parviennent pas à maturité. J'aime beaucoup cette traduction, n'arrive pas à maturité. Le problème, ce n'est pas que la semence n'a pas été plantée. Le problème, ce n'est pas qu'elle pousse un petit peu. Le problème, c'est qu'elle ne deviendra jamais ce qu'elle est supposée devenir. Jésus nous dit que le seul antidote à cet état de choses, la seule chose qui puisse empêcher ses racines de s'emparer notre cœur, c'est de s'engager sur le chemin que lui nous montre. Déjà à son époque, Jésus était au courant des dangers de ce genre de vie. Tout pour moi, tout pour mon ambition personnelle, tout pour rentrer du pognon ou faire de l'argent. On est d'ailleurs frappé quand on lit l'évangile du nombre de fois où Jésus se retire, où il s'éloigne de la foule, qu'il est pourtant venu aimer et servir, hein, et du tumulte des activités. Souvent, il se retire dans l'évangile. Il fait son travail. Hein. Maman, il casse cette relation temporairement pour aller s'isoler dans un coin. Il y a un épisode très frappant à ce sujet qui nous est relaté dans l'évangile de Marc. On va le prendre, un verset aussi. Jésus leur dit donc à ses disciples, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait, ils n'avaient même pas le temps de manger. Le contexte de ce passage, c'est que Jésus envoie 70 de ses disciples, deux par deux, pour aller prêcher l'évangile du royaume. Alors, ils vivent des choses extraordinaires, hein. Matthieu dira que, ah oui, Seigneur, on a chassé des démons, etc. Enfin, ils ont vécu des trucs durs, mais des trucs géniaux, comme on peut le faire quand on sert Dieu parfois. Et ils reviennent chargés d'adrénaline, ils ont envie de raconter. Ouais, tu sais pas ce que... Et Jésus dit stop, calmez-vous, descendez, redescendez et venez avec moi un temps à part pour qu'on puisse débriefer tout ça calmement entre nous. Parce que, dit-il, il y avait des gens qui allaient et venaient, ils n'avaient même pas le temps de manger autour de Jésus, déjà à l'époque. Mes amis, cette phrase a traversé les siècles pour venir nous dire que nous souffrons du même mal. Et le pire, c'est que je connais des chrétiens qui pensent que ne même pas prendre le temps de s'arrêter pour manger est une bonne chose à condition qu'on le fasse pour Dieu. Depuis quand est-ce que Dieu nous a demandé de ne pas manger, de courir dans tous les sens et de zapper toutes nos relations, les unes après les autres ? Le nombre de pasteurs qui ont négligé leur famille parce qu'ils servaient Dieu et n'avaient pas le temps d'aimer leurs femmes et leurs enfants, j'en ai fait partie. Le nombre de pasteurs qui sont dans cette trame-là parce que c'est ce qu'on leur a toujours enseigné. Oui, mais je sais que tu es ma femme, mais moi j'aime d'abord Dieu. Parce que d'abord aimer Dieu, c'est ne pas aimer sa femme et ses gosses. C'est ça le deal ? C'est ça le message ? Sans blague. Cette phrase a traversé les siècles. La question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette phrase ? Dans la pratique, hein, théorie, ce n'est pas très important. Hein. Vous savez, l'évangile, c'est très simple. Il faut faire ce que Jésus dit. Même si ça nous paraît complètement fou et impossible, et plus c'est impossible, plus il faut certainement réfléchir à comment je peux le faire, comment je peux le vivre. Ces chrétiens qui servent Dieu en zappant tout ce qui est vraiment important, Il y en a, hein, ils sont de plus en plus minoritaires. La plupart des chrétiens, maintenant, c'est le dimanche et encore quand ils n'ont rien d'autre à faire. Mais il y en a quand même encore certains qui veulent y aller à fond. Mais quand ils ne comprennent pas le message de Jésus, ils vont remplacer la vraie vie qu'offre Jésus par un maximum de réunions, d'implications, de machins et de trucs pour compenser le fait qu'ils ne comprennent pas comment ils peuvent vivre cette vie d'amour et d'intensité et d'intimité avec Dieu. Ils vont s'inventer des choses à faire. Ça s'appelle la religion. Hein. Je fais des trucs, je fais des machins. Tu vas au culte, tu as la grande prière, tu veux une étude biblique, tu as un super spirituel, tu as un bon. C'est le message. Si ça suffisait à faire de quelqu'un de proche du Christ, mes amis, ça se saurait. Mais tous ces frères et toutes ces sœurs entendent même parfois Dieu leur dire « Quelle belle vie tu as eue !» Quand ils arriveront devant lui, « Oh, c'est toi, tu es bien !» Quelle belle vie tu as eue. Tu étais même trop occupé pour manger. Je suis vraiment fier de toi. Croyez franchement que c'est ce que Jésus va leur dire? Ce qu'il faut retenir de l'attitude de Jésus, c'est qu'il invite ses disciples à mettre du temps à part. Alors une bête question, hein, pourquoi est-ce qu'il leur dit ça? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Ben, je pense que Jésus veut nous dire un bête truc, tout simple. Suivre Jésus n'est pas un sprint, c'est un marathon. Si vous entamez votre vie chrétienne comme un sprint, mes amis, moi je peux vous dire ce qui va arriver. Ça s'appelle un burn-out, comme disent les Français. Qu'est-ce que ça m'énerve quand ils disent ça comme ça? Vous avez vu un A devant le out, vous? Un burn-out. Suivre Jésus n'est pas un sprint. C'est un marathon. Mes amis, c'est une évidence, hein, non? C'est évident, c'est un marathon. Mais combien d'enfants de Dieu ont vu leur lumière s'éteindre? De ne pas avoir compris que s'ils voulaient le suivre, ils ne pouvaient pas aller plus vite que lui, qu'ils ne pouvaient pas dépasser leur guide. À une époque de ma vie, moi, Jésus, il était dans mon dos, il n'était pas devant moi. Certains d'entre eux étaient là, ils se rappellent. Le moindre problème irrésolvable, ça va, m'en occupe. Moi, je vais m'en occuper, sans blague. Nous devons impitoyablement, c'est ce que Willard dit, hein, nous devons impitoyablement éliminer toute hâte dans notre vie. Ce impitoyable est important. Il faut lui couper la tête à ses envies de courir dans tous les sens et de zapper d'un truc à l'autre. Aujourd'hui, les pensionnés, vous avez déjà vu les agendas des pensionnés? Ils n'ont plus le temps pour rien. D'autres personnes dans l'entourage ont rempli leur agenda à leur place. C'est une évidence, mes amis, que ce n'est pas un sprint. Évidemment, et c'est une bonne nouvelle, même s'il va falloir apprendre à courir des marathons. Hein. Alors, ça ne signifie pas, mais vous l'aurez compris, hein, que nous ne serons jamais occupés. Jésus a souvent eu de longues et fatigantes journées. Il n'était pas vraiment à 8 heures par jour, Jésus. Hein. Mais il n'a jamais vécu 7 ans d'intense activité en endommageant la relation de vie existant entre lui et son Père. Il n'a jamais servi les autres en massacrant sa relation avec Dieu, en la mettant de côté comme étant secondaire. Parce que c'est sa relation avec les autres qui aurait été détruite en même temps. Nous ne pouvons pas aimer les autres si nous ne prenons pas le temps d'aimer Dieu et d'apprendre à être aimé Dieu et à être aimé de lui. Ce n'est pas possible. Votre amour, mon amour n'est pas assez grand pour aimer tout le monde. Et pourtant, c'est ce à quoi Jésus nous appelle. Comment on va faire? Il faut apprendre à devenir véritablement un intime de notre Père. Jésus n'a jamais mis en danger sa capacité d'aimer. On serait beau avec un évangile d'un gars qui envoyait tout le monde sur les roses parce qu'il n'en pouvait plus. Ça aurait pu arriver. Hein? Burn out, Jésus. Il fume de partout. Terminé, vous me faites tous. Et on a ça dans l'évangile. Ah, d'accord. Ça va être facile à vendre, ça, comme truc. Hein? Il vous aime, mais ne le faites pas trop parce que ça va mal se passer. Quelle chance que Jésus n'a pas fait ça. Alors vous pouvez me dire, oui, mais c'est Jésus, quoi, il était un peu Dieu. Oui, mais oui, nous sommes bien d'accord. Hein. Il n'empêche que, comme pour nous, il devait prendre des décisions. Hein. Notre vie, au bout du compte, hein, ne sera jamais que l'accumulation de toutes nos décisions, bonnes et mauvaises. C'est tout ce qui restera. Dans la pratique, mes amis, combien de fois est-ce que nous faisons des choses supposément par amour? Ben oui, forcément. Alors qu'en nous, il y a tout ce que vous voulez comme sentiment à l'œuvre, mais certainement pas de l'amour. Hein. Il n'y a rien de pire pour quelqu'un d'être en contact ou en relation avec quelqu'un et de savoir que ce quelqu'un n'est pas là, en fait. Ah, physiquement, il est là. Mais ça me fait une belle jambe parce qu'il n'est pas là. Il ne m'écoute pas. Il est physiquement présent. Mais là, il est absent, il est ailleurs. Parce qu'on peut être pressé, intérieurement aussi, et ne pas prendre le temps. Pour Jésus, le plus important, et c'est l'Évangile, ce sont les gens. C'est tout ce qui compte pour lui. Mais vraiment, hein. Donc quand vous avez un choix à faire entre quelqu'un et quelque chose, le choix doit être vite fait, mes amis. Alors Jésus était souvent occupé, je termine par ça, mais jamais pressé. On ne le pressait pas, Jésus. Il n'était pas toujours dans son incarnation, pas toujours là avec tout le monde. Il ne pouvait pas être à deux endroits à la fois. Mais quand il était quelque part avec quelqu'un, toute son attention, son énergie et son amour étaient concentrés sur ce quelqu'un. Il y a donc une chose que nous devons comprendre. Dans tout ce que j'ai dit, on dit une, ce n'est pas beaucoup. Mais retenez déjà celle-là, ce sera bien. Courir n'est pas le signe d'un agenda perturbé. C'est le signe d'un cœur perturbé. Votre agenda, il dit en fait à un certain moment de votre vie qui vous êtes. Moi, j'ai gardé tous mes agendas. Je les garde. En particulier, les agendas de ma mauvaise période. Quand je les relis parfois, ça m'arrive, parce que parfois, je reprends le même chemin. Je sens que ça recommence. Je reprends ces agendas. Et je suis horrifié par la capacité de travail que j'avais. De travail. Pas une question de qualité relationnelle, hein. De travail. J'ai une pieuvre. Mon beau-père, qui est un stakhanoviste convaincu, un gars, s'il pouvait travailler 24 heures sur 24, il le ferait. C'est juste, hein. Il ne vit que pour ça. Cet être d'exception m'a un jour dit, à l'époque, tu travailles trop. Je suis le seul être au monde à qui Armand Frère a dit, tu travailles trop. Il m'a dit, tu dois prendre du temps pour toi. Heureusement, j'étais assis quand il a dit ça, hein. Et ils m'ont offert à l'époque, oh, supprime, même le week-end je travaillais, mon mercredi après-midi, vous savez, pour être avec ma famille, je ne le faisais pas. Parce que j'étais ailleurs. J'étais dans mon monde. Donc moi, à titre personnel, mes vieux agendas me servent. C'est comme une piqûre de rappel pour m'empêcher de reprendre le même chemin. Mes amis, ce genre de choses, on va l'appeler par son nom, hein. C'est une maladie. Malheureusement pour vous, votre médecin ne peut rien faire, votre généraliste ne peut rien faire. D'ailleurs, le mien, il aurait bien besoin d'ailleurs que je lui enseigne ça. C'est une maladie, comme beaucoup de choses dans la vie, hein. Les pères de l'Église qualifiaient ça de maladie spirituelle. Alors, vous allez me dire, moi ça m'interpelle ce que tu dis, mais comment je peux savoir si je souffre de cette maladie? Parce que comme de toutes les maladies, souvent on ne sait pas qu'on en souffre. Et si vous n'avez pas des gens assez au fait de ce genre de choses et qui vous aiment assez dans votre entourage pour vous dire « Fais gaffe, tu as un angle mort, tu es en train de prendre une piste qui n'est pas la bonne », vous n'avez personne autour de vous pour vous dire ça. Vous allez continuer à enraciner ce mouvement dans votre vie sans savoir que ce mouvement est en train de vous bousiller votre vie. Ça s'accélère l'Église, hein, quand ça fonctionne. Hein. Des gens qui vous aiment assez pour dire que Cola, et qui vous ont prouvé qu'ils vous aiment aussi, c'est important. Coco, là, à mon avis, ce n'est pas une bonne idée. Alors, comme pour toutes les maladies, nous allons devoir nous intéresser aux symptômes. Quand vous avez un rhume, logiquement, vous vous mouchez, vous éternuez, il paraît. Pour ce genre de maladie, le rapport au temps, si notre rapport au temps est malade, nous allons devoir nous intéresser aux symptômes. Et ça, c'est pour dimanche prochain. Et voilà, ça vous oblige à revenir. Normalement. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.